Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme au micro, nous sommes le 26 mars. Heureux de vous avoir avec nous et quand je dis nous, ben avec moi aujourd'hui, comme à l'habitude, Guillaume Lepage. Salut Guillaume.
Salut Nick.
Et Jean-François Chaumont, salut JF.
Bon matin, messieurs.
Comment ça va, messieurs?
Ça va bien, ça va bien. Malgré un torticolis, mais on s'en sort tranquillement. Peut-être, j'ai un cas douteux pour le match de pickleball du jeudi après-midi.
Bon. À cette période de l'année, il faut apprendre à jouer blessé, premièrement.
Ouais.
Puis à la question « Comment vas-tu? », je regarde la face de Guillaume puis je me dis que j'ai un matin radieux.
Il y a comme un... Non, mais il y a comme un mohawk de cheveux douteux.
On voit juste la moustache, premièrement.
Ouais,
c'est juste dû pour te raser.
C'est juste que j'ai pas mis de produit dans mes cheveux, c'est pour ça.
Ouais.
Mais j'ai pris ma douche, je porte des pantalons.
Oh, c'est, ça c'est bon. Tu portes pas de jaune dans le bas du corps. Mais Guillaume pourrait pas participer à un balado sous la gouverne de Lou Lamoriello.
Non,
côté poil, c'est beaucoup trop présent. Nick non plus, d'ailleurs.
Non, mais ça, écoute, ça cache le double menton, cette barbe-là, depuis plusieurs années, donc on en profite. C'est un bel atout qu'on est. On est quand même plusieurs, de plus en plus à avoir. Les gars, aujourd'hui, au balado, ben écoutez, on va parler de ce qui s'est passé hier chez les Canadiens de Montréal et hier et dans les derniers jours chez le Tricolore quand même. Donc, défaite hier, la course aux séries, tout ça, tout ce qui se passe. Donc, avec les prochains matchs, on va parler des Blues quand même. Hein, c'est intéressant. Je pense que les Blues sont une équipe qu'on avait peut-être enterrée il y a quelques mois, peut-être avec... depuis l'arrivée de Jim Montgomery, c'est assez différent, merci. Et progressivement, cette équipe... progresse, donc on va parler de tout ça. On va parler de Marc-André Fleury. JF, t'as parlé avec Marc-André dans les derniers jours, des textes qu'on peut lire sur LNH.com. Donc, tu vas nous résumer un peu tout ce que Marc-André avait à dire, alors que ça s'en vient. Hein, veut pas la fin de la carrière de Marc-André Fleury qui se dessine de plus en plus, donc comment il vit ça. Et surtout, notre invité aujourd'hui, Pierre-Luc Dubois, va être avec nous aujourd'hui. Donc, si on parle de la fin de la carrière de Marc-André Fleury. Marc-André Fleury a donné beaucoup de buts à qui, JF, dans sa carrière?
Numéro 8, Alexander Ovechkin.
Exactement. Donc, on va parler avec Pierre-Luc de cette course au record-là d'Alex Ovechkin, mais aussi comment il a vécu ça, parce que c'est une très belle saison pour Dubois. Il se dirige vers sa meilleure saison offensive en carrière. Gros sourire. Écoute, une entrevue qu'on a fait il y a deux jours. Gros sourire dans le visage de Pierre-Luc Dubois, avec raison, parce que ça va bien pour lui, ça va bien pour les Capitals. Avant de commencer, chers auditeurs, je vous invite, si vous nous écoutez sur le site de LNH.com, ben, sachez qu'on est disponible sur à peu près toutes les plateformes d'écoute qui peuvent exister. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Et abonnez-vous, suivez-nous, comme ça vous êtes certain de ne jamais rater un balado. Surtout que là, ben quoi, là... Deux semaines, trois semaines dans les séries. Donc, lentement, mais sûrement, là, ça s'en vient. Les balados en avion ou peu importe comment. De toute façon, ben quoi que, tout dépendant de ce qui va se passer, peut-être bien que ça va être plus en voiture ou peu importe. Si ça se déroule à Ottawa, si ça se déroule peut-être même à Montréal, les deux équipes qui sont toujours dans le portrait des séries. On se lance, défaite hier des Canadiens pas Buffalo, excusez, à Saint-Louis. Même couleur, mais pas partout dans le même coin du pays. 6-1, match à oublier pour le tricolore, hein, les gars. Je pense que on en avait une mauvaise. Après les émotions qu'on a vécues contre l'Avalanche samedi, on en avait une mauvaise dans le corps pour tout le monde hier. Puis ça a vraiment paru au niveau de l'engagement.
Bien, au niveau de l'engagement, mais quand tu perds aussi toujours par deux, par trois buts, c'est beau les remontées spectaculaires, mais ça ne peut pas arriver à tous les matchs. Donc, c'est peut-être un retour à la réalité. Les Blues forment aussi l'une des équipes de l'heure dans la Ligue nationale de hockey. Depuis la pause des quatre nations, Saint-Louis ne perd pratiquement pas. Donc, le CH a frappé un mur, mais comme Martin Saint-Louis, je reprends les mots de Martin Saint-Louis aux collègues sur place à Saint-Louis après le match, il ne faut pas voir ça comme une défaite, il faut voir ça comme de l'engrais.
Comme de l'engrais.
Comme quoi on peut apprendre de cette rencontre du côté de Saint-Louis. Mais
tant, en nos textes, pas du fumier.
Non, c'est ça. Ça peut sentir fort
non,
aussi.
Non, c'est ça. Donc,
mais c'est ça. Il n'y a rien qui fonctionnait. Moins 4 pour Matheson, Alex Carrier. Moins 3 pour Jake Evans, Yoel Armia. peu d'offensives générées et incapable de freiner les deux gros trios des Blues. Guillaume, on se parlait ce matin. Il y a deux joueurs des Blues qui, il n'y a pas si longtemps, jouaient une finale de la Coupe Stanley, Dylan Holloway et Philip Broberg. Disons qu'ils ont donné un solide coup de main aux Blues dans cette victoire et ils offrent tout un coup de main depuis le début de l'année. Donc, le CH hier méritait ce sort, une défaite. Et malgré tout, tu te réveilles, tu regardes le classement. Ça n'a pas trop bougé dans cette course aux tortues parce que les autres équipes n'arrivent pas à gagner. Les Rangers ont encore une fois opéré leur magie avec une défaite de 3-1 du côté de Los Angeles. Puis les Red Wings bien, ont perdu contre l'Avalanche. Quoi que du côté de Détroit...
Opéré leur magie.
Mais les Rangers menaient 1-0 au moment que j'ai choisi d'aller me coucher. Je me suis dit, ah, peut-être qu'ils vont se devancer le Canadien, mais non. Incapable de gagner du côté des Rangers.
Ça commence à être inquiétant pour les Rangers parce que là, on a toujours un point de retard sur le tricolore avec deux matchs de plus de jouer. La porte est réellement en train de se fermer pour les Rangers. Est-ce que quand même, tu en as parlé de JF, bon, que quand tu perds quand tu connais des mauvais départs, quand tu donnes le premier but, à un moment donné, on dirait qu'il y a une tendance qui commence à s'installer. On l'a vu contre l'Avalanche. C'est une troisième défaite au final là, pour le tricolore là, dans les trois derniers matchs. Martin Saint-Louis en a parlé un peu. Est-ce que il y a cette tendance-là où c'est une jeune équipe? C'est une équipe le tricolore l'a dit, on veut jouer des matchs importants en fin de la saison, mais c'est justement, il n'y a pas grand joueur dans cette équipe-là qui en a joué des matchs importants en fin de saison comme ça. Suzuki, Caulfield était là dans le fameux périple jusqu'en finale de la Coupe Stanley, mais il y avait cette naïveté-là du jeune. Suzuki était tout jeune. Caulfield venait d'arriver des rangs universitaires. C'est pas eux qui devaient traîner l'équipe. T'sais, est-ce qu'il y a lentement, mais sûrement, une fatigue mentale qui commence à s'installer, qui fait qu'on connaît un match comme hier, qui fait que nos départs sont pas mal moins intéressants, nos débuts de match, depuis un petit bout?
Ben, tu sais, depuis le match contre... le dernier bon match du Canadien, ça a été celui contre les Panthers, puis ça remonte au 15 mars.
18. Non, excuse, oui.
Depuis, après, il y a eu la victoire contre les Sénateurs d'Ottawa. On a inscrit beaucoup de buts en troisième. Contre les Islanders, on est revenu pour forcer la prolongation. Contre l'Avalanche, remontée spectaculaire en troisième période également. Mais, tu sais, on s'inflige du côté du Canadien, on s'inflige cette fatigue-là parce qu'on se donne le défi de faire des remontées très, très émotives, très, très, tu sais, en l'espace d'une période. Fait que c'est sûr que c'est drainant en bout de ligne. Ça finit par fatiguer les joueurs autant physiquement que mentalement. Là, on s'en va du côté de Philadelphie. Techniquement, sur papier, ça devrait être plus facile. Les Flyers sont en grande difficulté depuis un bon bout. Mais on joue deux matchs en deux soirs. Donc, tu sais, c'est des défis. Les défis n'arrêtent pas pour les Canadiens. Puis oui, c'est une jeune équipe. Oui, on n'a pas vraiment cette expérience-là. Mais tu sais, par moment, on voit qu'ils sont capables de bien le gérer. Les remontées en troisième période, il faut que tu aies du caractère. Il faut que tu aies quand même un certain calme pour te dire, je vais... On a les moyens de revenir dans ce match-là, on peut le faire, puis pas tout laisser tomber le plan de match pour essayer de tenter une remontée. Tu sais, on voit un peu cette maturité-là dans ces moments-là, mais à l'inverse, tu vois des débuts de match, des matchs comme hier qui sont loin d'être convaincants. Donc, je sais pas, on dirait que c'est beaucoup à demander à ce groupe-là qui, tu sais, il y a quelques mois à peine, on se disait il y a plus de profondeur du côté du Canadien, puis ça n'a pas vraiment changé depuis ce temps-là.
Non, on n'a rien fait. On n'a rien fait à la date limite des transactions. Là, donc, est-ce qu'on exact, commence à en payer le prix? Là?
On a perdu Kirby Dack qui, tu sais, depuis qu'il est blessé, on peut pas dire que le Canadien en souffre vraiment, là, même que je pense que c'était après le dernier match. Moi puis Jeff, on se parlait, puis on a presque oublié que Kirby Dack est dans cette équipe-là, là, parce que depuis que c'est blessé, ben ça fonctionne pareil, puis les choses roulent bien. Mais ça reste que t'en demandes beaucoup à tes mêmes éléments soir après soir, puis ça, éventuellement, ça peut venir coûter cher dans une course aux séries. Mais comme le portrait le démontre, ben si les autres équipes ne gagnent pas, ben survie. Ouais. Les Canadiens survivent en ce moment. Ouais. Ça fonctionne pour le moment. On est rendu au 26 mars. On avance tranquillement vers la fin de la saison.
Tu survis, mais tu dois rester prudent. Les trois prochains matchs sur la route, on parle de Philadelphie, les Hurricanes à Raleigh et les Panthers. Mis à part les Flyers, les Hurricanes et les Panthers, deux très bonnes équipes de hockey. Les Flyers, je crois, de mémoire, là, c'est 11 défaites à leurs 12 derniers matchs, ou si tu le verras à l'envers, là, une seule victoire dans les 12 derniers matchs. Donc, c'est le type de rencontre que tu peux absolument pas échapper. Est-ce qu'on presse le citron un petit peu trop avec certains joueurs? Ça, il faut se poser la question. Samuel Montembeau, c'est maintenant 11 départs pour les 14 derniers matchs. Montembeau était très, très bon au retour de la pause des quatre nations, mais là, on ressent une petite fatigue. Puis écoutez, je blâme absolument pas Samuel Montembeau pour hier soir du côté de Saint-Louis. Là. C'est le type de match que tu dois oublier, que tu perdes 6-1 ou 3-2, c'est le même résultat. C'est aucun point au classement, mais Montembeau, on lui en demande beaucoup dernièrement. C'est la même chose pour Mike Matheson. Mike Matheson, c'est régulièrement en haut de 25 minutes. À un certain moment, il va y avoir de l'épuisement. Ça reste des humains. Puis je regarde aussi le quatrième trio qui ont donné du très, très bon hockey aux Canadiens là, pour la majorité de la saison. Heinemann, Evans, Armia. Depuis plusieurs matchs, on voit pratiquement pas ce quatrième trio-là. Puis Joel Armia, clairement, est ralenti par une blessure à un poignet. N'a pas la même force physique, n'a pas la même puissance non plus avec ses tirs. Donc, si tu perds un, deux éléments, ça peut vite te faire mal. La bonne nouvelle, par contre, Caden Goulet cogne à la porte pour un retour au jeu. On se parle aujourd'hui, mercredi, il y a entraînement du côté de Saint-Louis et Goulet va participer à un autre entraînement complet. Donc, il est à quelques jours d'un retour. Grande question aussi, qui sort pour faire la place à Caden Goulet? Ouais. Il y a peut-être, logiquement, trois candidats. Harbour Jacky, David Savard et Jaden Struble. Mais depuis le retour de la pause, Jaden Struble, à mes yeux, est le plus fiable, le plus stable des trois défenseurs. Puis ce serait quoi le message si tu décides de sortir Struble? C'est peut-être l'équation la plus facile. Si tu sors Struble, tu places Goulet, tu remets Goulet avec Lane Hutson. Mais j'ai hâte de voir la décision de Martin Saint-Louis à ce sujet-là.
Ouais, vous êtes Martin Saint-Louis, vous faites quoi? Osez-vous retrancher le vétéran qui se donne match après match en David Savard? Quel type de message ça envoie un vestiaire si tu fais ça?
Ben, je pense que David Savard, c'est un bon vétéran. Je pense qu'il gérerait la situation avec toute la maturité qu'on lui connaît. C'est sûr que, honnêtement, tu regardes les derniers matchs, David Savard, je pense que c'est lui dans l'équation. Tu parlais de Struble, très solide. Jacky amène, qu'on le veuille ou non, l'élément de robustesse, l'élément d'intimidation que les autres n'ont pas. David Savard joue un rôle très important sur le désavantage numérique, j'en conviens, mais à 5 contre 5, c'est difficile. Contre l'Avalanche du Colorado, là, ça allait très vite pour David Savard. Fait que c'est une excellente question, mais je ne serais pas inquiet que le retrait de David Savard de la formation, puis tu sais, au pire, instaurer un système de rotation, peut-être entre lui et Jacky, un match ou quelque chose comme ça. Mais je serais pas inquiet, tu sais, de l'impact que ça aurait de retirer David Savard, parce que j'ai l'impression que ce serait le gars qui serait le premier à attendre ses coéquipiers dans le vestiaire après une victoire pour les encourager, puis tout ça. Il serait quand même très, très impliqué au sein du noyau de l'équipe. Là, je suis pas inquiet là-dessus.
Ça, il n'y a pas de doute pour l'attitude de Savard. Là, je partage l'opinion de Guillaume que c'est le type de joueur où il en est dans sa carrière qui accepterait son sort. Mais ça reste qu'il y a encore une valeur aussi sur la glace. Là, quand tu veux défendre un 5 contre 3, quand tu veux protéger une avance en fin de match, c'est Savard que tu envoies sur la patinoire. C'est une jonglerie qui n'est pas facile pour Martin Saint-Louis et Stéphane Robida. Tu as Harbour Jacky aussi qui a l'aspect plus intimidant, qui frappe, qui va jeter les gants de temps en temps. Le bon vieux cliché, c'est que les joueurs se sentent protégés quand Jacky est sur la glace. Mais tu regardes hier du côté de Saint-Louis, perd son joueur aussi devant le filet, quelques batailles à un contre un où c'est le joueur des Blues qui ressort avec la rondelle. Jacky, peut-être des trois, est celui qui est le plus difficile à prédire quel type de match qu'il va te donner. Peut-être la solution la plus logique, c'est d'y aller pièce par pièce. Du côté de Philadelphie, tu peux t'attendre des fois un peu plus de robustesse avec une équipe de Jordan Tortorella, tu as Nicolas Deslauriers. Peut-être que tu gardes Jack Eye dans ta formation, mais que tu le reposes contre les Hurricanes, une équipe plus rapide. On verra. C'est pas dit non plus que Caden Gauley à 100% va jouer le prochain match contre les Flyers. Ça se peut qu'on décide de jouer de prudence avec lui.
Ouais, reste que et... ça serait un bon moment, un retour pour un retour, parce que deux matchs en deux jours, si tu as à faire une rotation, justement, laisser savoir de côté les jambes les plus vieilles, c'est le moment parfait. Là, on parle de trois matchs en trois jours et demi, parce que la partie de dimanche, elle est contre les Panthers, mais à 13h en après-midi, du côté de Sunrise. Donc, non, c'est une bonne commande. Puis, ben oui, les Canadiens ont besoin de Gauley. Ça, il n'y a pas de doute quand tu vois ce
Mais je me demande aussi, je me pose la question en même temps qu'on se parle, mais si Martin n'a pas souvent utilisé cette formule-là, mais un retour avec sept défenseurs, puis peut-être reposer Yoel Armia, qui a mal au poignet depuis quelques matchs. Est-ce que tu donnes quelques jours à Armia? Le quatrième trio roule plus ou moins bien, mais en même temps, le deuxième trio aussi est très imprévisible, là, celui de Newhook, Laine et Joshua Roy. Donc, est-ce que tu y vas avec une formule de 11 attaquants, 7 défenseurs, question d'intégrer Gauley plus en douceur? C'est peut-être pas à écarter. Ouais,
c'est pas fou. Puis, c'est pas fou. T'as des bonnes idées.
Je tiens à faire un mea culpa parce que tantôt, j'ai entendu Guillaume dire Alex Newhook. Alex Newhook, au centre, est un meilleur joueur qu'à l'aile. Je crois que ça devient de plus en plus clair. Dernièrement, je dois lui lever mon chapeau. Réussi à utiliser sa rapidité. Finit pas ses jeux, mais on le voit plus. Puis c'est peut-être une illustration aussi à quel point c'était pénible pour Kirby Dach au centre cette saison, le fait qu'on s'ennuie pas de Kirby Dach, qui techniquement doit être le deuxième centre. Le plus et moins aussi de Kirby Dach cette saison était très révélateur de son efficacité dans son propre territoire.
Juste, je sais qu'on a passé vite sur Samuel Montembeault, là, mais pour moi, c'est pas un hasard qu'au retour de la pause, il a gaulé de la manière qu'il l'a fait. Il était reposé, il a travaillé sur son jeu. Tu sais, pendant les deux semaines, on lui parlait régulièrement après les entraînements du Canada. Puis, tu sais, il prenait des tirs à chaque jour, avait pas la pression, puis la charge de travail qui venait avec les matchs. J'ai l'impression que ça lui a fait un grand bien et est revenu en pleine forme. Connu de très, très bons matchs à son retour. Mais là, on retrouve un peu le Samuel Montembeault qu'on voyait avant la pause, qui était un peu épuisé. Tu sais, je pense que autant il aurait aimé ça être gardien numéro 1 du Canada aux quatre nations, je pense qu'il était heureux d'avoir un petit break puis de pouvoir travailler sur son jeu parce que les matchs s'enfilent et tout ça. Tu n'as pas vraiment le temps de t'entraîner. Tu n'as pas le temps d'apporter les correctifs. Puis là, on le sait, la confiance, c'est tout pour un gardien. Puis dès que le doute s'installe, ben là, dans deux jours, tu rejoues. Puis let's go. Puis là, t'as pas le droit à l'erreur. T'as aucune marge de manœuvre parce que l'équipe doit gagner. C'est beaucoup à demander à Samuel Montembeault. Puis j'ai l'impression que le Canadien n'a pas vraiment confiance en Jakub Dobesch en ce moment. À ses derniers départs, c'est un petit peu croche, un peu imprévisible. Je ne sais pas si ça a été annoncé. J'imagine qu'on va le voir contre les Flyers de Bech. Si on, je veux dire, on peut pas donner deux départs en deux soirs à Samuel Montembeault à ce point-ci de l'année. Mais je pense qu'il bénéficierait d'un partage un peu plus équitable du travail, sauf que le Canadien n'a pas nécessairement les éléments pour faire ça en ce moment.
Mais on rentre déjà dans un territoire inconnu aussi avec Montembeault. Là. Il est à 51 départs. On parle d'un sommet personnel. Il devrait finir l'année avec pratiquement 60 départs. Donc, c'est quand même une charge de travail importante pour un gardien numéro 1.
Qui ne l'avait jamais fait.
Qui ne l'avait jamais fait devant une équipe jeune. Mais tu sais, je reprends les mots de Martin Saint-Louis la semaine dernière qui disait, bien, on n'est pas ici sans Samuel Montembeault. Donc, c'est pas le temps non plus pour y aller d'expérience, lancer des messages, quoi que ce soit. Donc, se tourne vers son gardien numéro 1, ce qui est logique. Je crois honnêtement que Dobesch va jouer uniquement les segments de deux matchs en deux soirs d'ici la fin de l'année. C'est peut-être deux départs pour Jakub Dobesch. Pas vraiment plus. Puis on voit aussi, les équipes commencent à comprendre qu'autour de son filet, quand vient le temps de récupérer une rondelle derrière son filet, Dobesch est mauvais. Donc, c'est une faiblesse qu'on réussit à exploiter de plus en plus, mais il a quand même fait un bon boulot depuis qu'il a été rappelé du Rocket de Laval.
Si ça va pas bien pour Dobesch dans son prochain départ, dans les suivants, oseriez-vous rappeler Caden Primo pour qui ça roule vraiment bien avec le Rocket?
Non, hein? Non, je pense que c'est pas le temps.
Tu veux pas trop shaker le club non plus, là?
Non. Primo va bien à Laval. Sans
Primo,
être
Primo, c'est pas la première fois qu'il est bon à Laval non plus. Là. Ouais. On a déjà fait cette manœuvre-là de se dire ah ben là, je pense qu'il est prêt. Arrive au niveau de la Ligue nationale, puis ça se transpose pas nécessairement. Donc, je pense que ce serait un peu du pareil au même par rapport à Dobesch en ce moment, parce que tu sais pas plus que Primo va t'offrir au niveau de la Ligue nationale. Donc, c'est une chance à prendre en même temps.
Je trouve que ce serait de placer excessivement de pression sur les épaules de Caden Primo. Mm-hmm. Je crois pas que dans un moment où tu te bats pour chacun des points au classement, ce serait le bon moment.
Puis on s'entend que le message qu'on lui a envoyé juste avant de le retourner à Laval, c'était
t'es pas assez
bon. On n'a plus aucune. Non, mais c'était pas mal ça. On n'a plus aucune confiance en toi. On a envoyé Montembeau devant le filet. Pourquoi 10 matchs de suite ou quelque chose comme ça? T'sais, là, c'est de le rappeler comme ouais, là, on a un problème. Let's go, on va t'essayer. Je pense qu'au niveau de la gestion organisationnelle, c'est peut-être pas le meilleur move à faire de rappeler Caden Primo puis de le placer dans une situation comme ça où le club doit gagner chaque match. Là.
Peu importe que ce soit Philadelphie ou la Caroline, Dobesch va obtenir un des deux départs. Mais dans le passé, Saint-Louis et Éric Raymond nous ont peut-être surpris. On s'attend à ce que ce soit les Flyers, parce que sur papier, on parle du match le plus facile des deux. Mais en même temps, est-ce que tu veux t'assurer les deux points, peut-être donner encore plus de chances d'une victoire? Tu y vas avec ton numéro 1 contre les Flyers en Montembeau. Puis le lendemain, du côté de la Caroline, c'est Jakub Dobesch. Mais c'était la stratégie que le CH avait fait. Ouais. Quand il y avait deux matchs en deux soirs, Chicago et Colorado, début du mois de janvier, on avait opté pour justement Montembeau à Chicago en disant « on va sécuriser deux points ». Finalement, il n'y a pas eu deux points contre les Hawks. Puis on va y aller avec le jeune contre l'Avalanche en se disant « bien, c'est un match-là, c'est pratiquement une défaite ». Mais Dobesch avait gagné en tir de barrage. Si ma mémoire est bonne, je pense que c'était 2-1 contre l'Avalanche.
Oui, il avait célébré, là, puis tout ça, je m'en souviens. Ouais. Mais quand même, je pense que Montembeau, plus vite tu vas lui donner un break, mieux ça va être, là.
Oui, mais en même temps, dans la tête d'un gardien, plus vite que tu reviens d'une mauvaise performance, le mieux que c'est. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que le citron, là, il commence à avoir de moins en moins de jus avec Samuel Montembeau, puis il est temps d'offrir un départ à Dobesch.
Le match suivant du Canada, mardi d'après, encore contre les Panthers. Deux matchs consécutifs contre les Panthers
par la suite. Puis tu sais, je veux dire, la loi de la moyenne, le Canadien a battu les Panthers deux fois à date, là, tu sais. Les chances
que le balancier irait de l'autre côté, Guillaume?
Les chances sont que dans les deux derniers matchs de la saison, les Panthers vont en gagner au moins un. Puis surtout, tu sais, j'ai l'impression que déjà après le match du mois de décembre, Paul Maurice était en beau fusil après ses troupes, après la défaite contre le Canadien. Au Centre Bell, il avait dit « Je vais rien dire au sujet de mon équipe pour pas enlever le mérite qui revient aux joueurs du Canadien. » Tu sais, je pense que là, à un moment donné, il va peut-être brasser la cage, puis les Panthers ont fini par répondre comme ils sont capables de le faire, parce que c'est une équipe que, en tout cas, si le Canadien termine sa séquence contre les Panthers avec 4 victoires cette saison, ben là, ça va être... Je dirais rien, là, parce qu'on ne sait jamais, là, mais ce serait très surprenant, disons.
Ouais, non. Puis c'est pas comme si les Panthers, leur place était assurée au niveau du classement. Là. Ils peuvent encore terminer troisième de la section atlantique. Là. Donc, il n'y a pas de poids à laisser aller là, du côté des Panthers. Donc, les prochains matchs, on pourra avoir une discussion bien différente mercredi prochain lorsqu'on va parler de la course aux séries pour le tricolore. Ça pourrait aller.
J'ai dit à GF que j'allais commencer à croire aux séries si le Canadien revenait du voyage avec 6 points sur une possibilité de 8. Donc là, la marge de manœuvre a été utilisée. Il reste 3 victoires à aller chercher dans ce voyage-là parce que...
Mais gars, les autres équipes gagnent pas.
C'est une course de tortue. Fait que Peut-être que je vais être encore au même stade de me dire je vais commencer à y croire éventuellement, mais pour moi, ce voyage-là, c'était quand même significatif dans le sens de dire si cette équipe-là est capable d'aller gagner 3 matchs à l'étranger avec un horaire, tu l'as dit, là, c'est 3 matchs en.
C'était 4 matchs en 5 jours et demi.
Non, c'est ça. Fait que pour moi, si c'était une preuve de caractère d'aller gagner au moins 3 matchs. Puis au classement, je pense que le fait de gagner 3 matchs sur 4, ça aurait donné un bon boost à l'équipe. Fait à suivre, c'est pas impossible, mais c'est une autre commande.
Je regardais hier les Blues. Doug Armstrong va passer pour un génie par rapport à ce qu'il a fait l'été dernier quand il a décidé de faire des offres hostiles à Dylan Holloway, Philip Broberg du côté des Oilers. Regardez la chute des Oilers présentement qui sont privés de McDavid et de Leon Draisaitl. Ces deux joueurs-là, c'est exactement ce qu'on aurait eu besoin à Edmonton pour relancer notre équipe. Est-ce que vous avez l'impression que ces succès-là, ce que vient de faire Doug Armstrong dans une réalité de plafond qui a des équipes qui, soudainement, avec le plafond qui monte rapidement, il y a des équipes qui vont se retrouver avec beaucoup de marge de manœuvre, éventuellement, dont le tricolore. Avez-vous l'impression que des offres hostiles, on va en avoir de plus en plus?
Ben, ça peut être une stratégie payante. Surtout quand c'est bien fait. Là, tu sais, Doug Armstrong a regardé l'enveloppe salariale des Oilers. Il a choisi de les coincer. Mais Broberg a donné exactement le montant maximum qu'il pouvait offrir et que ce soit uniquement un choix de deuxième tour. Puis même chose avec Dylan Holloway, c'est un choix de troisième tour. Donc, les Blues n'ont même pas eu à payer un choix de premier tour pour Broberg ou Holloway. Donc, c'est quand même une saine gestion financière quand vient le temps d'attaquer une autre équipe. Je ne sais pas si du côté d'Edmonton, ils ont été piqués dans leur orgueil à se dire « Mais pourquoi Broberg et Holloway nous placent dans le trouble en disant oui à des propositions hostiles puis qu'on a fermé le vestiaire immédiatement? » Mais on a oublié que c'était deux joueurs dans la fleur de l'âge. Broberg, là, si, on était sur la passerelle de presse, Guillaume avait écrit à quelques reprises à son sujet après Mathias Ekholm puis Evan Bouchard, c'était probablement le meilleur défenseur du côté des Oilers d'Edmonton. Il était très, très, très bon quand la scène était grande en plus. Puis Dylan Holloway se promenait d'un trio à l'autre, avait peut-être la difficulté à trouver sa niche du côté d'Edmonton, mais là, il y a déjà une 50aine de points avec les Blues.
60,
mais c'est ça. C'est un gars qui a été repêché au premier tour, le milieu du premier tour, donc tu savais qu'il y avait un potentiel. Puis c'est surtout ces deux joueurs qui donnaient de la profondeur aux Oilers, puis du jour au lendemain, tu dis bye-bye. Puis ils se sont tournés, c'est Jeff Jackson, Stan Bowman est arrivé un petit peu plus tard, mais ils ont offert des contrats à Victor Arvidsson, ils ont offert des contrats à Jeff Skinner. On a essayé de boucher des trous, Vasily Podkolzin, l'ancien des Canucks qu'on a acquis, mais disons que ça n'a pas fonctionné. Oui, bravo, coup de chapeau à Doug Armstrong, mais l'autre bon flash de la part de Doug Armstrong aussi. Il n'a pas hésité une seconde. Quand il a vu que Jim Montgomery, un des meilleurs entraîneurs, était disponible, bien c'est plate pour Drew Bannister. Il a dit bye-bye à Drew Bannister. Il a offert un contrat de 5 ans à Jim Montgomery. Ça lui a pris peut-être quelques semaines pour placer son empreinte sur l'équipe. Mais depuis ce temps-là, les Blues, sans dire qu'ils sont partis, je ne veux pas dire qu'ils ont consolidé à 100% leur place dans l'Ouest, mais disons qu'ils sont dans une très bonne position pour participer aux séries.
Non, exactement. Puis depuis le retour de la confrontation des quatre nations, c'est la meilleure équipe de la Ligue par 4 points d'avance sur les Kings, fiche de 13-2-2.
Rapidement, le Nick, c'est avec Jim Montgomery, c'est 29 victoires, 16 défaites et 6 revers en prolongation. C'est la 9e meilleure fiche de la Ligue nationale. Puis les Bruins de Boston, où ils ont eu l'attitude de paniquer.
Tu vas là, toi.
Ben les Bruins, c'est jamais la faute de Cam Neely, ni celle de Don Sweeney. Mais les Bruins, 20-24-6 avec Joe Sacco, 26e rang. Donc, peut-être qu'ils ont pris la mauvaise décision.
Oui, puis on en avait parlé quand ça avait changé. On avait dit l'arrivée du système de Jim Montgomery. Ça allait prendre un peu de temps, mais on voit les résultats. Je regardais la moyenne de buts accordés des Blues depuis... Ça, c'est depuis la confrontation des quatre nations, là, mais on est troisième dans la Ligue avec Jordan Binnington puis Joel Hofer de Valfilet, deux gardiens qui peuvent te donner le meilleur comme le pire soir après soir, de voir cette moyenne-là pour une équipe qui est privée de Colton Parayko,
ouais,
qui est son meilleur défenseur. T'sais, il fait tout par Rico. Là, il peut te donner une production offensive. Il est juste un gros bonhomme. Il joue, on l'a vu à la confrontation des Quatre Nations. Il était là à la ligne bleue pour le Canada. Montgomery sera pas dans la course pour le trophée de Jack Adams parce qu'il n'a pas été là durant toute la saison. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de son effet là, qu'on voit chez les succès des Blues qui... Écoute, le Wild en arrière, là, le Wild a commencé à regarder ses miroirs là, parce que les Blues sont plus gros qu'ils en ont l'air, c'est ça? Objects are... tu sais ce qui est écrit? Objects in the mirror ouais. are bigger or closer than they appear. Mm. Ben, c'est pas mal ça, là, parce que là, les Blues sont tout simples. Elles sont à 2 points du Wild avec un match en main, par contre, pour le Wild. Puis Wild, ben, 2 défaites de suite, seulement 4 à nos 10 derniers matchs. On a les blessés encore. Je vois mal comment les Blues vont pas aller, je sais pas vous autres, mais comment les Blues vont pas réussir à aller rejoindre le Wild.
Oui, absolument. Je veux dire, vous avez résumé la situation à la perfection. Là. J'ai l'impression que c'est une équipe qui est partie sur une lancée sans revenir sur l'histoire Cendrillon des Blues de 2019, qui était dernier dans la Ligue au mois de janvier, puis qui ont gagné.
Richard Labbé te le dirait, Guillaume.
Je sais pas s'il l'a écrit, c'était lui qui était à Saint-Louis. Je sais pas s'il l'a écrit dans ses papiers. Habituellement, il fait toujours une petite pointe aux Blues de 2019, mais non, tu sais, je pense pas qu'on est à l'échelle de cet exploit-là qui avait été réalisé. Tu sais, il y avait beaucoup de blessures et tout ça qui expliquaient le mauvais départ des Blues à l'époque, mais de voir ça, tu sais, j'ai l'impression que c'est une équipe qui a le vent dans les voiles puis qui va tout simplement pas s'arrêter. Là. Je veux dire, on est. Quand on est sur une lancée comme ça à ce temps-ci de la saison, ça veut en dire beaucoup sur une équipe. Puis les Blues sont en train de prouver qu'ils peuvent être des séries. Et peut-être même, ben, tantôt au téléphone, juste avant le podcast, Jean-François m'a dit s'ils jouent contre les Jets de Winnipeg au premier tour, ça se pourrait qu'il y ait une surprise. Fait que ce serait quand même intéressant de voir ce duel-là là, entre une équipe qui a bien terminé puis les Jets qui ont dominé de A à Z. Là, je pense que ce serait un bon duel, mais comme tu dis, le Wild pourrait céder sa place au premier rang de 4e as, donc ça pourrait changer les duels.
Non, ça sera pas... si t'es les Jets, là, présentement, tu continues à espérer que les Blues continuent à gagner, c'est mieux pour toi. Mm-hmm. Toujours dans la course aux séries dans l'Ouest, bon, l'Avalanche qui gagne, mais devant les Stars qui, eux aussi, continuent à gagner, les Jets aussi, donc on rétrécit pas l'écart, là, on est à 3 points des Stars. L'Avalanche, on en a parlé tantôt, qui était ici samedi à Montréal. Tu as parlé, Guillaume, à Jonathan Drouin. Comment ça va pour lui depuis... ça n'a pas été une saison facile. Il s'est blessé dès le premier match de la saison. Ensuite, il est revenu au jeu, retourné sur la liste des blessés. Puis tout ça, c'est à l'image de la saison de l'Avalanche. C'est-à-dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessés, d'absents et de rebondissements hein, aussi avec l'échange de Mikko Rantanen. Comment ça se passe pour Drouin jusqu'à présent cette année?
Ben depuis son retour, ça va très bien. Je crois, de mémoire, qu'il a raté les 32 des 36 premiers matchs de l'équipe. Il s'est blessé au premier match de la saison contre les Golden Knights de Vegas. Donc, pour lui, ça a été, bon, disons, il y a meilleur moyen de commencer une saison que celle-là. Mais depuis son retour, fonctionne bien. Il a retrouvé sa place sur le premier trio aux côtés de Nathan MacKinnon. Donc, saisit toutes les opportunités qui se présentent à lui. Puis, Jared Bednar disait, depuis son arrivée avec l'Avalanche l'an dernier, après avoir quitté le Canadien, il dit c'est beaucoup amélioré dans toutes les facettes du jeu. Puis là, il est devenu joueur à qui je peux confier n'importe quelle mission dans n'importe quelle situation. Il parlait beaucoup de la qualité de son jeu défensif, de l'étiquette qu'on avait apposée à Drouin dès son année de repêchage, comme quoi on le voyait comme un joueur purement offensif. Peut-être qu'avec la maturité, avec les années, ben Drouin a compris justement qu'il fallait aussi être efficace défensivement pour connaître du succès, pour garder sa place dans une formation. Puis c'est ce qu'il a fait au Colorado. Puis pour l'instant, depuis son retour au jeu, ça va très bien. Puis tu le disais, l'écart ne se rétrécit pas. La course reste la même. Dans la section centrale, Drouin nous disait, il y a une question sur l'éventuel affrontement contre les Stars de Dallas au premier tour. Il disait pour nous, on utilise les derniers matchs pour se préparer à cet affrontement-là, à peaufiner les détails pour être prêt pour les Stars au premier tour. Fait que je pense pas que... On le sait du côté des joueurs aussi qu'il y a très peu de chances que le portrait change dans cette section-là. Puis on se prépare à un duel de titans au premier tour contre les Stars. Ça va être du très bon hockey. Puis j'ai l'impression que les deux équipes en sont à peu près au même stade. Même que l'Avalanche, j'ai posé la question à Benard, le fait qu'il y a eu beaucoup de blessés, est-ce que au final, c'est le repos, je le mets en guillemets, que les joueurs dont les joueurs ont bénéficié tout au long de la saison, est-ce que ça paye rendu ici? Puis il disait, c'est certain qu'il y a un effet. Il prenait Drouin en exemple. Il dit, il joue avec l'énergie d'un joueur qui amorce sa saison, qui en est au premier quart de saison. Fait qu'il dit, il est encore en train de peaufiner les détails de son jeu, mais au niveau de l'énergie, au niveau de sa combativité et tout ça, ben c'est pas un joueur qui a 65-70 matchs dans le corps. Il y a encore beaucoup d'énergie. Puis c'est le cas pour plusieurs autres joueurs qui n'ont pas eu des absences aussi longues, mais quand même qui ont été blessés pendant des petites périodes puis qui peuvent bénéficier de ça, le rendu au moment où ça compte le plus en fin de saison.
Je regardais pour Hockey Magazine, je dois faire une petite chronique de temps en temps pour chaque parution. Et il fallait se prononcer un peu avec l'état du classement présentement, ce que ça donnerait. Puis j'ai regardé l'Avalanche, j'ai regardé les Stars. Puis on en a parlé dans les dernières semaines, comment, à mon avis, les Stars ont l'équipe parfaite pour gagner la Coupe Stanley. Puis je me suis mis à regarder l'Avalanche, puis soudainement, je me suis mis à douter. Puis je me suis mis à douter pour tout ce que tu viens de dire, pour le fait qu'on a enfin un gardien qui est capable d'arrêter une rondelle sur deux avec l'Avalanche. Et pour le fait que Mikko Rantanen, présentement, il va être de l'autre côté, mais présentement, Rantanen, c'est long avant de lever à Dallas, comme c'était long avant de lever avec les Hurricanes. Je suis absolument plus certain de rien pour les Stars, pour l'Avalanche. À mon avis, c'est la finale de la Coupe Stanley en première ronde.
Ben, tu regardes la ligne de centre de l'Avalanche du Colorado, là. Charlie Coyle sur un troisième trio, c'est le prototype parfait d'un joueur de profondeur. C'est un gros bonhomme. Il frappe, il est capable de produire offensivement. Tu es allé chercher Brock Nelson qui est au centre de ton deuxième. C'est pas Mikko Rantanen, mais Martin Nekash aussi. Tu sais, je veux dire, cette équipe-là a la profondeur d'une équipe qui peut se rendre jusqu'en finale. Donc, il n'a rien à envier aux Stars de Dallas. C'est certain que si Rantanen se met à produire comme il le faisait avec l'Avalanche, ben là, peut-être qu'on a un autre discours. Si Miro Heiskanen est de retour, ben peut-être qu'on a un autre discours. Mais pour l'instant, ça reste des points d'interrogation. Puis il y a plus de chances qu'Heiskanen rate le premier tour. Donc, ça va être très, très intéressant cette série-là.
Et ouais. L'Avalanche comptera toujours aussi sur Nathan MacKinnon et Cale Makar.
Ouais.
Deux des meilleurs joueurs au monde. Cale Makar, là, chaque fois que tu as la chance de le voir en personne, il est extraordinaire comme défenseur. Sa rapidité, son intelligence. Son partenaire aussi à ligne bleue, Devin Taves, c'est vraiment un duo vers qui là, tu peux tourner et leur donner 28 à 30 minutes par match en série sans trop de problèmes. Là.
C'est le premier duo de la meilleure équipe d'hockey au monde, selon ce qu'on a vu à la confrontation des quatre nations.
Exact.
Je pense que ça en dit beaucoup. Un joueur qui a déjà représenté le Canada, mais qui ne l'a pas fait à la confrontation des quatre nations, c'est Marc-André Fleury. JF, t'as pondu deux textes, chers auditeurs, allez lire ça sur le site de lnh.com, sur ce qui se passe dans la tête présentement de Marc-André Fleury dans ce qui est les derniers moments de sa carrière. Bon, il n'est pas beaucoup utilisé présentement pour deux raisons. La première, c'est que Philippe Gustafsson, qui, comme on dit en bon français, goal sur la tête du côté du Wild présentement. Et le fait que le Wild est en pleine course pour la survie de sa saison, pour essayer de ne pas finir dernier, puis devoir affronter les Jets dès la première ronde. Donc, Fleury est un peu le... Il regarde beaucoup de matchs présentement du côté de sur le banc. C'est pas ça va être quand, son dernier match. Il veut pas... Ça doit commencer à lui jouer un petit peu dans la tête parce que quand tu n'es pas utilisé à tous les jours, ben ça se peut qu'à un moment donné, tu ne sauras pas et ton dernier match a été joué. Hein, ça t'en rend compte. Il a joué hier contre les Golden Knights, défaite de 5-1. Bon, comment il vit ça là, présentement, Marc-André?
Ben Marc-André, j'ai eu la chance de lui parler vendredi. Il sortait d'un entraînement du côté du Wild à Saint-Paul. C'est typique Marc-André Fleury. Ça fait peut-être 2 minutes, 3 minutes qu'on se parle. Il conduit, il retourne chez lui, puis il me demande si c'est possible d'attendre une minute parce qu'il y a un partisan sur une lumière rouge qui le reconnaît. Puis il dit là, le partisan est en train de faire 22 signes pour que je le regarde. Donc Fleury a pris soin de baisser la vitre, lui glisser un petit mot et de s'excuser d'avoir placé l'entrevue sur pause. C'est typique de Marc-André. Mais bon, il sait que la fin approche. Pour lui, ça reste un concept bizarre. Il ne veut pas trop y penser. Quand il obtient un départ, il dit qu'il refuse de regarder trop loin. Question de ne pas devenir émotif, de ne pas se perdre non plus dans ses idées, dans ses pensées. Au mois de mars, c'est seulement 2 matchs. On parlait tantôt de presser le citron avec Samuel Montembeau, mais John Hines fait la même chose avec Philippe Gustafsson. Pour deux raisons, Gustafsson est un des gardiens de l'heure dans la Ligue nationale, mais aussi, on en parlait tantôt, le Wild doit se battre pour sa position en série. Donc, Fleury avale la pilule, dit pas un mot plus haut que l'autre, joue le rôle de numéro 2. Puis l'autre sujet que je voulais lui parler, je lui ai raconté l'histoire de Pascal Leclerc, comme quoi Pascal Leclerc a reçu un chandail d'Alexander Ovechkin où il a signé son nom, Ovechkin, puis il a écrit « You were the number one.
You were the first one.
Ovechkin avait marqué ses deux premiers buts dans la Ligue nationale à son premier match contre les Blue Jackets et contre Pascal Leclerc. Puis pour la petite histoire, là, Leclerc regardait du hockey cette saison avec ses filles à la maison qui ont 9 ans et 7 ans. Puis ils deviennent à l'âge où ils réalisent que papa a déjà joué dans la Ligue nationale. Puis les filles lui ont dit, ben écoute, si c'est toi qui as donné les premiers buts contre Ovechkin, tu devrais peut-être lui demander un petit cadeau, quelque chose. C'est de là que l'idée est née. Leclerc avait écrit aux Capitals, puis en l'espace de quelques temps, recevait par la poste un chandail d'Ovechkin. Quand j'ai conté l'histoire à Fleury, et lui est parti à rire en disant, mais écoute, si Pascal a obtenu un chandail, je mériterais au moins la même chose parce que je pense que je l'ai aidé, Ovechkin. Ovechkin a marqué 28 buts contre Fleury. C'est un sommet, mais c'est aussi le gardien qui a affronté le plus souvent. Mais Marc-André disait, mais si tu tournes l'autre côté de la médaille, mais oui, peut-être, je me suis fait déjouer souvent contre lui, mais j'ai eu de nombreuses batailles où j'ai affronté Ovechkin. Le classique, il a tout dit ce qu'on peut entendre. Tire sur réception, toujours à la même place, mais il bat quand même. Parce qu'à ses yeux aussi, il n'y a jamais une mauvaise passe. Il dit oui, il y a eu de bons centres avec Backstrom, notamment pour plusieurs saisons. Mais peu importe où tu y places la rondelle, Ovechkin réussit à prendre son tir. Donc. Puis selon lui, selon Jojo Savard-Fleury, le record de Wayne devrait tomber cette année. Il s'attend à voir Ovechkin réussir à marquer. Il en manque 5, là, je pense.
6. Il y en a marqué ben, un hier. 5, ouais.
C'est ça, 5 pour égaler, 6 mm-hmm. pour le battre en 11 matchs. Donc, c'est dans la réalité, Alex Ovechkin, c'est possible.
T'as parlé des. On parle d'Ovechkin depuis tantôt. Écoute, je vais prendre la balle au rebond. Pour parler de notre invité aujourd'hui sur le balado, Pierre-Luc Dubois. Les Capitals hier qui ont perdu courte défaite de 3-2 contre les c'était un duel au sommet, là, c'était contre les Jets. Là, donc on se bat toujours pour le trophée des présidents. Mais somme toute, chez les Capitals, ça va très bien. On avait une fiche de 9-0-1. Donc on avait nos 10 derniers matchs, on les avait pas perdus en temps réglementaire avant de perdre. Pas vrai. 9-1-0. Donc, on avait une seule défaite en temps réglementaire lors de nos 10 derniers matchs. Hier, défaite. Mais ça va bien pour les Capitals. Ça va bien pour Pierre-Luc Dubois. Depuis le début de la saison, Dubois a 61 points en 71 matchs. Joue bien défensivement en plus. Est utilisé au sein d'un trio avec Connor McMichael, avec Tom Wilson aussi. Il a aussi joué avec Alexei Protas. C'est le trio qui affronte les gros trios. Si on avait dit l'année dernière, quand on regardait ce qui s'était passé chez les Kings, où il n'y avait absolument rien qui fonctionnait pour Dubois, si on vous avait dit qu'aujourd'hui, il se retrouverait à affronter les gros trios des équipes adverses, à jouer défensivement, puis à se diriger vers la meilleure saison de sa carrière, je pense pas qu'on l'aurait cru. C'est une entrevue qu'on a fait avec moi et JF. Là, Guillaume, ton Wi-Fi a lâché, donc on n'a pas pu t'avoir avec nous pour l'entrevue qu'on a fait lundi.
On va blâmer Fizd.
Bon. Oh.
Je veux juste le nommer pour question de je sais pas, jeter le blâme sur quelqu'un d'autre.
Mais GF, on en parlait, puis c'était drôle de voir Pierre-Luc, gros sourire. C'est ça que j'ai dit en partant, le gros sourire. Tu vois que il a tourné la page, il y a eu une belle conversation dès son arrivée avec les Capitals, puis ça l'a mis tout de suite en confiance.
Ouais, c'est comme tu disais, Nick, c'est un gars qui a relancé. Relancé, c'est peut-être un grand mot, mais qui a replacé rapidement sa carrière sur les rails. Reste un joueur qui est dans la fleur de l'âge. Donc, profite de bons moments du côté de Washington. Puis, on va l'écouter, mais il y a plusieurs raisons de sourire. L'équipe qui est au sommet dans l'Est, Ovechkin qui se bat pour le record, Dubois qui a des missions autant offensives que défensives, Spencer Carberry qui devrait être le candidat logique pour le Jack Adams. Donc, entrevue intéressante avec Pierre-Luc Dubois.
Ouais, on vous fait écouter ça. Alors, le voici, Pierre-Luc Dubois. Notre prochain invité, on le rejoint du côté du centre d'entraînement des Capitals de Washington, attaquant des Capitals, Pierre-Luc Dubois. Salut, Pierre-Luc.
Salut.
Pierre-Luc, tu connais une saison qui doit... Écoute, tu dois être particulièrement satisfait quand tu regardes tout ça parce que les Capitals surprennent tout le monde. Premier dans la Ligue, vous avez assuré votre place en série la semaine dernière, jeudi dernier. La première équipe à le faire en plus cette année dans la Ligue alors qu'on ne voyait pas ça nécessairement se dessiner avant le début de la saison. Offensivement, tu te diriges vers ta meilleure saison en carrière pour les points. Elle doit être difficile présentement de ne pas avoir un beau gros sourire dans le visage quand tu te présentes justement au centre d'entraînement comme ce matin.
Oui, depuis le début de la saison, je dirais que ça va bien. L'équipe, ça va bien, on gagne, on joue bien. La chimie d'équipe est vraiment excellente. Fait que, ça fait en sorte que quand tu gagnes des matchs et que la chimie est là, la communication avec le coaching staff, tout est là. Ça fait en sorte que quand tu te présentes à l'aréna, beaucoup de sourires, plus de positifs cette année que de négatifs, ça c'est 100% sûr.
Y a-t-il un moment, Pierre-Luc, où tu t'es dit, je le sais que le mariage va être bon entre moi et les Capitals, contrairement à l'an dernier, on ne se comptera pas de cachette, ça a été difficile avec les Kings. C'est quand que tu as compris que c'était pour bien rouler avec les Capitals?
Ouais, je pense que dès la première conversation avec. C'est que j'étais changé, j'étais à l'aéroport. Donc, la première conversation que j'ai eue, c'était avec le GM. J'avais déjà un bon feeling, mais après ça, la première conversation avec le coach, ça a été une excellente conversation. On a parlé 10 minutes de ma vie, de comment je vivais ce changement-là. On a parlé 2 minutes de hockey. Mais le 2 minutes de hockey, c'était vraiment un signe positif. Après ça, plus tard dans l'été, on s'en reparlait un peu de ses attentes envers moi de la saison, un peu de lui, ce qu'il pensait qu'il avait m'arrêté. À Los Angeles, qui pouvait bien aller à Winnipeg, à Washington. donc je pense que à ce moment-là, je me suis dit ça fait un bon fit. Après ça, quand je suis arrivé au camp d'entraînement, encore la communication avec les coachs, avec les adjoints, avec les joueurs ici, je savais que ça va être très positif cette année.
Puis personnellement, ton approche, ça a été quoi pour rebondir de cette saison-là? Puis qu'est-ce qui fait ton succès depuis le début de la saison?
Ouais, moi, c'était... C'est pas trop compliqué. j'avais connu une bonne saison l'année d'avant à Winnipeg. Ouais. Cette année, j'ai 40 quelque passes. L'année passée, j'en avais 25 ou quelque chose. L'année passée, j'étais pas un mauvais passeur. Cette année, j'en suis un bon. C'est juste, les circonstances sont différentes. Les opportunités sont différentes. Donc, pour moi, c'était juste un peu de revenir à qui j'étais comme joueur, de revenir au joueur que j'ai toujours été dans ma carrière. Et de pas croire qu'une mauvaise saison, que les circonstances étaient complètement différentes, les opportunités étaient complètement différentes, le rôle était différent. Donc, tout ça, je pense que ça va être en sorte que les résultats étaient différents. Donc, si je pouvais retrouver un peu ce que j'avais à Winnipeg, je savais qu'il y avait une opportunité d'avoir des bons résultats ici, mais avec le travail des joueurs, de mes joueurs sous mes trios, puis du coaching staff, je pense que c'est vraiment ça qui a fait en sorte que ça va bien ici.
Tu as été placé rapidement, bon, tu sais, dans différents rôles, il y a un bon premier trio qui s'est établi, mais vous avez, lentement mais sûrement, il y a plusieurs joueurs que je trouve qui ont élevé leur jeu à Washington. Tu sais, tu l'as dit toi-même, c'était une saison que tu voulais rebondir. Jacob Chychrun est arrivé, c'est un gars qui voulait rebondir aussi, redevenir lui-même. Logan Thompson avait été blessé l'année d'avant, a été blessé quelques fois, tu sais, il y avait des choses à prouver. Puis les trois, entre autres, il y en a d'autres aussi, mais vous trois, vous avez tout le monde élevé votre niveau de jeu. Ça commence par où? Puis à quel point Spencer Carberry, votre entraîneur, a eu un gros rôle à jouer dans tout matcher ça, des pièces qui arrivaient d'un peu partout, puis tout de suite, ça a cliqué en partant?
Oui, c'est vraiment pas évident. Je pense que la job d'un coach, c'est vraiment 22 morceaux de casse-tête, c'est tu les mettre comme il faut à la bonne place et vraiment faire en sorte que les 22 individus jouent bien pour que l'équipe joue bien en finale. Donc, tu regardes un gars comme Chikrin, je pense qu'il était à Ottawa, c'est un excellent joueur. Il jouait un peu en arrière de Chabot Sanderson. Et après ça, ici, il se fait donner un rôle, une opportunité que peut-être qu'il n'y avait pas à Ottawa, ça va super bien. Logan Thompson, c'est un peu la même chose à Vegas, un peu derrière Aiden Hill, il arrive ici, un peu plus d'opportunités, ça va super bien. Donc, je pense que le staff au complet, le GM et Spencer Carberry ont été capables de trouver des joueurs comme ça, des joueurs qui étaient peut-être qui n'avaient pas autant d'opportunités qu'ils pouvaient avoir ici. Et leur a donné un rôle. La communication était très claire de la première journée du camp d'entraînement. Et je pense que c'est ce qui a fait en sorte que des joueurs comme Chikrin et Thompson et parmi d'autres, des gars comme Taylor Radish aussi qui connaît une excellente saison. Mais des joueurs comme ça, que tu leur donnes une opportunité de plus et tu peux avoir des résultats un peu meilleurs qu'il y avait avant.
Et Pierre-Luc, tantôt tu parlais de tes statistiques offensives, comme quoi tu es. Tu n'étais pas un mauvais passeur cette année, mais cette année à Washington, tu as plus d'occasions, plus de
passé,
points.
Pas un mauvais passeur l'an passé. Cette année, tu as pas mal de bons passeurs. Oui. Mais oui.
Exact. Mais déjà 61 points cette année, plus 35 aussi. Autant on peut te parler des statistiques offensives, ton jeu défensif, je crois aussi, est quelque chose d'hyper important du côté de Washington. Dirais-tu que tes missions défensives avec Spencer Carberry t'ont peut-être aidé aussi mentalement, si tu te sens encore plus valorisé au sein de l'équipe?
Oui, ça a toujours un peu fait partie de ma game. Mon père, c'est un coach, fait qu'il m'a toujours, il a toujours essayé de m'apprendre à bien jouer le facilement, avoir un bon bâton, toutes ces affaires-là. Des choses que à la fin du match, peut-être qu'ils n'apparaissent pas sur les statistiques, mais qui fait en sorte que c'est peut-être une victoire au lieu d'une défaite. Donc, à Columbus, je jouais un peu déjà un rôle, je jouais contre les grosses lignes de l'autre équipe, mais c'était un rôle un peu plus offensif parce que c'était avec Panarin. Donc, nous, on jouait contre les grosses lignes, mais dans un sens différent. On défendait moins, on voulait plus attaquer les gros trios. Mm-hmm. Après ça, à Winnipeg, c'était la ligne à Adam Lowry qui jouait contre les grosses lignes. À Los Angeles, c'était Philippe Dano. Là, j'arrive ici, puis une des missions que Carberry voulait me donner, c'était de jouer contre les grosses lignes de l'autre bord. Donc, comme j'ai dit, tu peux bien jouer défensivement, mais tu peux aussi bien jouer offensivement. Toutes les premières lignes de la Ligue nationale, ils veulent pas vraiment défendre, ils veulent attaquer. Donc, si tu peux attaquer, si tu peux être bon défensivement, mais aussi amener cet aspect offensif, ça te permet de passer un peu moins de temps dans ta zone, un peu plus de temps dans la zone offensive. Donc, je pense que c'est un mélange que j'essaie d'apporter ici. Et c'est un mélange qu'avec les joueurs que j'ai pu jouer cette année, avec les Tom Wilson, Protus, McMichael, je pense qu'on est tous sur la même page dans ce sens-là. C'est une mission qui est très le fun pour nous. C'est un challenge qui est très le fun. C'est difficile, mais à la fin du match, même si on a zéro point et que l'équipe a gagné, que tu sens que tu as vraiment aidé l'équipe, c'est vraiment ça le plus important.
Pour le plaisir, Martin, puis Luc, j'ai été voir les sites de Paris. Puis quand tu regardes les probabilités pour champion de la Coupe Stanley, vous avez beau être premier au classement, vous êtes entre 6 et 8e selon les différents sites. Ça vous agace-tu un peu d'être pas vu comme à la hauteur de ce que vous êtes au classement présentement?
Non, pas vraiment. Je pense que depuis le début de la saison, personne ne nous voyait ici. Personne ne nous voyait dans l'autre du classement. Personne ne nous voyait. Il y a du monde qui ne nous voyait même pas dans les séries.
Ouais, c'est ça.
La réalité, c'est que nous, dans la chambre, on a toujours cru qu'on avait un groupe spécial. On a toujours cru qu'on avait des très bons joueurs. L'équipe a fait les séries l'année passée. C'était une saison différente de cette année, mais il avait fait les séries. Il avait vraiment vécu de l'adversité. Et là, avec les nouveaux joueurs qui rentrent, on s'est dit peut-être qu'on avait quelque chose de spécial. Donc, on ne s'est pas mis de pression. On ne s'est pas mis de pression à finir, peu importe dans le classement. On voulait juste jouer au hockey et avoir du plaisir. C'est ça qu'on fait depuis le début de la saison. Maintenant qu'on arrive à la fin et qu'on voit les séries arriver, je pense que c'est le même message. Les résultats, c'est bon, mais c'est vraiment le processus qui est le plus important. Et je pense que c'est ça qui a fait en sorte que cette année, ça va bien. Même quand des périodes difficiles, qu'on jouait probablement pas notre meilleur hockey, on a trouvé des façons d'avoir des résultats, de trouver des deux points. Et c'est vraiment ça qui fait la différence cette saison, je pense.
Pierre-Luc, à Washington, tu portes le 80. On n'a pas le choix de te parler de celui qui a juste un 8 dans le dos, Alex Ovechkin. On est à peut-être à quelques jours de vivre un moment unique au hockey avec la quête du record de Wayne Gretzky. La dernière fois que je t'ai croisé, c'était à Ottawa, avant un match, puis tu me disais, je joue avec Ovechkin depuis seulement un an, mais je pense que je pourrais écrire un livre sur lui. Ça ressemble à quoi partager cette saison-là avec lui, puis avoir Alex Ovechkin comme coéquipier?
Ouais, mais c'est spécial dans deux sens, comme tu dis. De un, de pouvoir jouer avec une légende comme Ovechkin, c'est spécial, mais aussi de pouvoir jouer dans une saison aussi spéciale qui est dans la course pour le record. Donc, de pouvoir apprendre à le connaître à tous les jours, de pouvoir le voir à l'aréna comme aujourd'hui, avant les pratiques, dans l'entraînement, dans le gym, toutes ces affaires-là, c'est vraiment spécial d'apprendre à le connaître comme personne. C'est quelqu'un de très souriant, toujours bonne humeur. Dès qu'il arrive dans une salle, tout le monde le sait. Tout le monde est au courant qu'il est là. Il parle à tout le monde, va serrer la main de tout le monde. Donc, ça, c'est la base. Après ça, le joueur sur la glace, tout le monde le connaît comme joueur. Marqueur naturel, pas besoin de beaucoup d'espace pour marquer un but. C'est vraiment un cadeau qu'il y a de marquer des buts. Puis des fois, du monde, on peut se dire, ah, peut-être que plus tard, quelqu'un pourra le battre. Je suis sûr que quand Wayne avait le record, tout le monde pensait que personne n'allait le battre, mais c'est de marquer, c'est quoi, 45 buts pendant 20 saisons, quelque chose comme ça, c'est assez incroyable, vraiment. C'est vraiment le fun à voir. Même qu'il marque quand on est visiteur, 70% de la foule est debout et applaudit. Donc, c'est quelque chose que je pense que quand je vais prendre ma retraite un jour, je vais regarder en arrière, je vais pouvoir dire, wow, c'est vraiment cool d'avoir fait partie de cette saison-là.
Mais pour vous autres, les autres joueurs, est-ce qu'il y a une pression de le faire produire? C'est une motivation ou il y a même une pression face à tout ce qui se passe, à l'ampleur que toute cette course-là au record a pris?
Je pense que, dans un sens, tu pourrais peut-être dire, oh, il y a peut-être un peu de pression, mais c'est tellement un marqueur naturel que tu donnes la rondelle dans un espace où il peut prendre un tir, puis ça peut rentrer. C'est tellement naturel pour lui que ça nous enlève la pression. Tout le monde veut le voir battre le record. Bien évidemment, lui veut battre le record, mais tout le monde de notre équipe veut voir battre le record. Les joueurs, le coaching staff, les partisans. Donc, à chaque soir, on sent vraiment cette quasiment l'excitation de plus. Mais quand tu donnes la rondelle à Alex Ovechkin, à 35 pieds du filet adverse, tu as des très bonnes chances que ça va être un but.
Pierre-Luc, tu es probablement trop jeune pour te souvenir de Jojo Savard, là, mais Jojo Savard avait la qualité de lire l'avenir. Il bat le record cette année, d'après toi, Ovechkin?
Avec Ovid, si jamais. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il peut. C'est, comme j'ai dit, c'est à chaque soir, c'est jamais qu'est-ce qu'il va faire. Donc, moi, je pense que oui.
OK.
Pierre-Luc, merci d'avoir été là ce matin avec nous sur la tasse de café. On va te souhaiter une belle fin de saison, peut-être un moment historique, puis surtout un très long printemps.
Peut-être un premier tour contre Montréal, Pierre-Luc.
Oui, peut-être. Hein? On va peut-être se rejaser plus souvent qu'on pensait finalement.
Exactement.
Merci, Pierre-Luc.
Merci.
Alors voilà, c'était cette entrevue avec Pierre-Luc Dubois. J'ai hâte de voir ce que ça va donner la fin de saison des Capitals. J'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner en série. Hein. On en a parlé durant l'entrevue, mais les Capitals, même s'ils sont premiers, sont pas vus comme des favoris. On n'en parle pas, là, on vient de parler de l'Avalanche puis des Stars, que moi je dis que c'est la finale en première ronde. Faudrait pas qu'en plus cette équipe-là ait une petite dose d'underdog, là, une petite dose de sentir nous contre le monde, parce que ça pourrait faire d'une équipe dangereuse en séries éliminatoires. Donc, ça va être à suivre pour les 2-3 prochains mois. GF, Guillaume, merci d'avoir été sur le balado aujourd'hui.
Toujours un plaisir.
Merci à toi.
Merci, chers auditeurs, aussi d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à aller lire les textes de mes deux collègues et tout ce qu'on produit sur le site de lnh.com. Dans les prochains jours, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est partout. Faites une recherche à LNH. Comme ça, vous êtes certain de rien rater. Merci encore d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.